Lox par Durst Sickens. Sujet, c'est la prêtrise. Voulez-vous rechercher avec moi Exode chapitre 19? Que signifie par ailleurs le mot Exode? Il signifie issue. Et ce mot me parle bien plus, comme dans l'expression « je vois une issue ». Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Lisons donc Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Qu'est-ce qui nous frappe dans ces versets? Quand serons-nous un royaume de sacrificateurs? Nous le serons si nous écoutons. Pouvons-nous écouter? Et si nous gardons l'alliance, seulement alors nous serons un royaume de sacrificateurs. D'ailleurs, je trouve royaume une très jolie expression. Un royaume qui se compose de prêtres. Je veux parler de la prêtrise aujourd'hui. Pierre en fait référence à ce texte dans sa lettre. Et dans l'Apocalypse, on en parle 4 fois. Cela est dit expressément à l'Église entière. Et dans Exode, cela s'adresse à tout le peuple. Mais la plupart des Églises ont expliqué ce texte erronément. Ici, il s'agit de tout un peuple de prêtres, où chaque individu a cette fonction. Il ne s'agit donc pas d'un petit groupe spécial, d'une caste de prêtres ou d'une élite. Il ne s'agit pas non plus d'un conseil d'anciens ou de frères qui auraient une fonction sacerdotale, un ordre de prêtrise. Dans la traduction de la Septante, il y a quelque chose de remarquable. « Vous m'appartiendrez en propre. Vous serez un peuple particulier pour moi, spécial, propre, singulier. Un peuple mis à part, qui se distingue d'une manière spéciale de tous les autres peuples. » Et pourquoi ce peuple est-il mis à part? Parce que Dieu a un plan pour ce peuple. Dieu veut qu'il soit une bénédiction pour toute la terre. Voilà son plan. Le terme hébreu pour prêtre, c'est Kohen. Et ce mot vient d'un verbe qui signifie être debout. Ainsi, ce mot peut être traduit par « celui qui est debout devant Dieu ». Et cela vaut tant pour les hommes que pour les femmes. On peut se demander alors, mais que fait celui ou celle qui est debout devant Dieu? Le mot grec pour prêtre signifie « quelqu'un qui fait des œuvres saintes ». Et dans certaines églises, les prêtres officient dans des cérémonies, dans des liturgies solennelles, avec des prières préfabriquées. Ils portent des vêtements sacerdotaux pour bien se distinguer du peuple commun. Cette situation existait déjà au temps de Jésus. Jésus aussi était confronté à des groupes de prêtres. Mais ceux-ci étaient ses plus grands ennemis. on pouvait être ordonné prêtre. Et cela a commencé dans l'Ancien Testament. En hébreu, il existe une expression pour l'ordination ou la consécration. C'est milé jad. Et jad signifie main. Cela signifie donc remplir la main. Et comment se déroulait la cérémonie d'ordination des prêtres? Je vais vous la décrire. D'abord, on sacrifiait deux moutons, ce qui réfère au sacrifice de Jésus. Ce sacrifice comporte deux faces, d'où deux moutons. Nous pouvons dire qu'au centre du ministère de prêtre, il y a le sacrifice de Jésus. Si on enlève ce sacrifice hors de l'Évangile, on en ôte l'essence même. On en enlève l'essentiel. L'essentiel de notre existence. Pourtant, Jésus nous a avertis que cela arriverait. Et d'ailleurs, c'est arrivé. Le prophète Daniel en parle déjà. Nous le voyons dans Daniel, chapitre 9, verset 27, et aussi dans les chapitres 11 et 12. Lorsque vous verrez que l'abomination est dans le cœur du temple, alors les choses vont mal. Daniel dit que le sacrifice journalier et perpétuel va s'arrêter. Et si on enlève le sacrifice, qui est valable pour l'éternité, alors les hommes ont enlevé le cœur de l'Évangile. Donc on abattait deux moutons. On en prenait un peu de sang pour en asperger tout ce qu'il y était autour. C'était une action symbolique. On prenait un peu de sang dans une coupe et on en touchait les personnes qui devaient être consacrées. On les touchait au lobe de l'oreille droite, au pouce de la main droite et au gros orteil du pied droit. Pourquoi toujours à droite? Parce que la droite signifie également le droit, la justice. Nous avons une belle expression dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 2. Le cœur du sage l'incline à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Vous ne devez pas reprendre cette expression en politique. Mais dans la Bible, elle contient une signification profonde. L'esprit du sage l'incline à sa droite, c'est-à-dire vers quelque chose de juste. Pourquoi l'oreille? La réponse est simple. Il faut avoir des oreilles pour entendre, des oreilles spirituelles pour entendre Dieu, et aussi pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Il faut aussi pouvoir écouter les hommes. Certaines personnes ne peuvent vraiment pas écouter, parce qu'elles racontent toujours leur propre histoire. Elles répètent sans cesse « moi aussi, moi aussi ». Posons-nous la question, pouvons-nous vraiment écouter? Parfois, il faut écouter à travers des paroles des gens. Et le pouce droit réfère aux actes, à nos actions, nos œuvres saintes. Plus tard, nous parlerons des actes des apôtres, pas de leur méditation, mais de leurs actions. Car tout le monde peut prêcher, c'est assez facile, mais agir. Et l'orteil du pied droit, c'est le zèle pour aller raconter l'Évangile. Que mettons-nous au pied? Jésus disait à ses disciples, lorsqu'il les envoyait, « Ne prenez pas de bourse, ne prenez pas de porte-monnaie, mais mettez des sandales aux pieds. Connaissez-vous cette expression? Si on a des sandales, c'est qu'on est un homme libre, parce que les esclaves marchaient pieds nus. C'était ce qui les distinguait des hommes libres. Montrez que vous êtes des hommes libres et non plus des esclaves. Ensuite, on oignait les prêtres d'huile. On versait l'huile sur leur tête. Voyez, cela est dit dans le psaume 133. Et pourquoi sur la tête? Parce que c'est une image du baptême dans le Saint-Esprit. Il coule sur nos pensées, afin que nous soyons imprégnés des pensées de Dieu. Et cela ne se fait pas en une seule action. S'enrichir dans le monde de pensées de Dieu, c'est un processus lent. On y réfléchit, on le médite, et petit à petit, on se remplit de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu, cela signifie être rempli de son monde de pensée. Et c'est la seule façon d'écraser le monde de pensée du diable. C'est un processus lent, mais c'est un processus magnifique. Il nous est demandé de marcher selon l'Esprit Saint. Et ce n'est pas une compétition. C'est un dialogue au cours d'une marche, au cours d'une promenade. C'est à cela que sert le baptême dans l'Esprit Saint. On reçoit alors le principe de vie de Dieu en nous. Il m'arrive de dessiner. Et hier, j'ai dessiné un cartoon. J'ai dessiné un grand mur, très épais, solide. Et j'y ai inscrit des mots comme victoire, joie, force, puissance. Ne sont-ce pas là les slogans d'aujourd'hui? Grand, plus grand, le plus grand. Mais je dis parole, parole que tous ces mots. Et à côté de ce mur, j'ai dessiné une toute petite plante qui a deux petites feuilles où j'ai inscrit « petite parole ». Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre Babel et Jérusalem, ou entre toutes les grandes paroles d'une part et la vraie vie d'autre part, celle qui se développe dans un être humain. Aux prêtres, on a confié beaucoup de choses. On a confié les trésors du temple. Mais ces trésors, ce sont ceux qui sont cachés dans les hommes. Car c'est ainsi que Dieu nous voit, tels des trésors. Nous sommes son temple. Et Dieu nous confie aussi ces autres trésors. Pensez aux soins que nous prodiguons à nos frères et sœurs, les prières d'intercession, le pardon des péchés, etc. Et c'est ainsi que nous faisons du bon travail dans le temple de Dieu. Je sais que beaucoup de chrétiens le font, dans le secret aussi, et c'est cela que je trouve magnifique. Jésus les a appelés trésors, et aussi les mystères de son royaume. Jésus dit que le Père a jugé digne ce petit troupeau d'hommes. Il a jugé digne de recevoir les secrets, les mystères de Dieu lui-même, parce qu'ils sont capables de garder des secrets. On le garde secret, car on ne le confie qu'aux hommes à qui on peut faire totale confiance. Cohen signifie « qui est debout devant Dieu ». Et on peut faire ceci de deux manières. D'une part, en adorant. On peut adorer sans fin. En grec, adorer se dit proskounio, et cela signifie embrasser. Mais je me demande si mon épouse apprécierait si je l'adorais ainsi tout le temps. On ne peut pas faire ceci toute la journée, n'est-ce pas? Je pense qu'au bout de 5 minutes, mon épouse dirait « Merci bien, mais il faut encore faire la vaisselle. Le living doit être aspiré. Il y a encore beaucoup de travail dans le jardin. » Pourtant, j'ai l'impression parfois qu'on adore Dieu en répétition sans fin. Et je me demande même si cela n'a pas un effet saoulant. Mais Dieu dit au prêtre, « Retourne-toi et vois le monde qui est dans la détresse, car c'est à cela que je t'ai appelé. Je veux que tu vois le monde, et lorsque tu regarderas vers cette création soupirante qui est dans le besoin, tu verras alors que je suis derrière toi. » Être debout devant Dieu, cela implique que Dieu est derrière nous. Et c'est pourquoi je trouve cette appellation si belle, celui qui est debout devant Dieu. Les prêtres sont entre Dieu et les hommes. Je vais étendre un peu ce qui est dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu aime tant le monde qu'il donne ses premiers-nés au pluriel, afin que quiconque les croit ait la vie éternelle. Jésus n'est pas le premier ni l'unique à être appelé à nourrir la création et à lui donner la vie éternelle. Mais nous, premiers-nés, nous avons aussi cette vocation de prêtre. Et il n'est pas nécessaire d'aller loin pour cela. Notre terrain d'action est autour de nous. Jésus non plus n'a pas traversé la terre entière. Il a commencé par l'endroit le plus difficile, Jérusalem, qui était contre lui. Dieu aime tant le monde qu'il t'appelle toi et moi. À nous d'agir, à nous d'écouter et de nous mettre en mouvement. Nous marcherons au nom du Père et du Fils et dans l'Esprit, qui est leur Esprit. Plein d'amour, plein de miséricorde, nous marcherons en faisant le bien. Car nous avons reçu l'Esprit Saint pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Car c'est ce que fait l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et si l'Esprit Saint est actif en nous, nous convaincrons le monde de péché. Nous prêcherons que ça, c'est le péché. Et ça, c'est la justice qui vient de Dieu. Et la séparation entre les deux, c'est le jugement. Prêcher, c'est notre travail de prêtre. Et pardonner aussi. Pardonner à quelqu'un est une action sainte. Jésus disait « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais il ne faut pas le dire à n'importe qui, car il y a des personnes qui ne reconnaissent pas avoir péché. Et à ces personnes-là, il ne sert à rien de leur offrir le pardon. Nous pouvons aussi annoncer que la mort est vaincue, qu'ils ne mourront plus spirituellement. Et de cette manière, nous enlevons le pouvoir au diable. C'est le diable qui apporte la mort. Dans la Bible, les prêtres savaient distinguer ce qui était pur de ce qui était impur. Certains animaux étaient déclarés impurs, et on ne pouvait pas en manger. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui suivent ces prescriptions. Mais Jésus disait, « Vous êtes purs parce que je vous le dis. » Et nous, en tant que prêtres, nous avons reçu le pouvoir de dire « Vous êtes purs ». Moi-même et mon épouse, nous l'avons fait, réciproquement d'abord, et envers d'autres ensuite. À ceux qui se sentent sales et impurs, vous pouvez déclarer qu'ils sont purs au nom de notre Père. Quelqu'un qui vient d'être lavé est propre, mais pur veut dire autre chose. Cela veut dire aussi non dilué, sincère, pur, non falsifié. Notre doctrine aussi peut être falsifiée. Heureusement, elle se purifie de plus en plus. Même Calvin a énoncé des dogmes misérables. Par exemple, l'état de pécheur éternel, ou la doctrine de la prédestination. Dans l'Église catholique aussi, il y a l'adoration de la Vierge Marie. Il existe aussi le spiritualisme moderne. Que faisaient encore les prêtres? Les prêtres enseignaient. Ils enseignaient la Torah. Et la Torah, ce n'est pas seulement une loi, c'est plutôt un enseignement. Que nous apprend la Torah? Elle nous apprend en fait à vivre. Et apprendre quelqu'un à vivre, c'est déjà beaucoup. Il faut aussi expliquer les paroles des prophètes. Dans Luc, chapitre 24, verset 45, il est dit « Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Les prophètes eux-mêmes n'ont pas compris ce qu'ils annonçaient. Mais nous, nous pouvons le comprendre grâce à l'Esprit-Saint, car celui-ci est un enseignant. Il nous apprend à comprendre les Écritures. Dans Psaume 119, verset 130, nous lisons « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Littéralement, il est écrit, plutôt que révélation de tes paroles, l'ouverture de tes paroles illumine. L'ouverture, cela signifie qu'on commence à comprendre les paroles de Dieu. Et cela illumine la lumière, c'est une image de l'amour de Dieu. Et la lumière est une image magnifique. C'est la plus belle image de l'amour qu'on puisse imaginer. Et nous pouvons être des porteurs de lumière et d'amour. Le plus grand commandement, c'est celui d'aimer, a dit Jésus. C'est le commandement qui englobe tous les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est la seule façon de rendre notre Seigneur joyeux. Car on peut prêcher tout ce qu'on veut, on peut louer tant qu'on peut, mais Jésus dit, « Rendez ma joie parfaite en vous aimant les uns les autres. » Nous pouvons aussi offrir le pardon. Pardonner, cela signifie « jeter au loin ». Lorsque nous disons « je te pardonne », cela ne veut pas dire qu'on oublie, mais cela veut dire que la faute ne porte plus à conséquence. C'est comme avec les blessures. Lorsqu'on se blesse, cela fait mal. Et puis, la blessure guérit et se cicatrise. Mais la cicatrice ne fait plus mal. Lorsque je décéderai, je me souviendrai de tout ce qui m'est arrivé durant mon existence terrestre. Ma mémoire ne s'effacera pas, mais je n'en souffrirai plus. » Jésus avait des cicatrices dans les mains, dans les pieds et le côté. Il ne les a pas fait disparaître. Comprenez-vous pourquoi Thomas voulait les voir? Il voulait s'assurer que Jésus n'était pas un magicien, mais quelqu'un qui a souffert, qui a des cicatrices, mais qui en est ressuscité. Jésus a gardé son identité. Le pardon nettoie, et après le pardon vient la réconciliation. La réconciliation avec Dieu. Alors, il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous. Cela signifie qu'on peut se donner le baiser de la paix, parce que l'alliance est rétablie. On ne s'embrasse pas quand on ne s'aime pas. Et si on le fait quand même, alors on se trahit. C'est pour cette raison que Jésus disait à Judas, « Me trahis-tu avec un baiser ?» Jésus est étonné. « Ne vous donnez jamais de baiser de Judas. » La réconciliation avec Dieu. Dieu est si heureux quand la relation est rétablie. Il y a cependant encore un pas à faire. C'est la réconciliation avec soi-même. Et ceci vaut bien un prêche entier. Je dois me poser la question de savoir si je suis réconcilié avec moi-même. Est-ce que je me trouve bien? Ou aurais-je voulu être quelqu'un d'autre? Être célèbre, par exemple. Ai-je encore besoin de l'estime des autres? De dire, par exemple, « Regardez-moi et voyez comme je suis original. » Eh bien, je puis vous dire que moi, toutes les idées originales que j'ai, je les ai reçues. J'ai tout appris de mon Père Céleste, c'est vrai. Et si quelqu'un me dit « Quelle belle idée que tu as eue là !» qu'il sache que je l'ai reçue, tout simplement. Tout ce que nous savons, nous l'avons appris de quelqu'un d'autre, comme par exemple que 2 et 2 font 4. Finalement, j'ai tout entendu et tout appris. Mais il ne faut jamais être un autre que soi-même. Être soi-même, c'est être un véritable être humain, même si cet être est blessé, endommagé. Soyez réconcilié avec vous-même. Cela m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir dire « Je suis dur Zickens et cela me plaît ». Les jeunes ont moins de problèmes avec ceci, mais moi, je viens d'une autre époque de pensée. Dans l'Apocalypse, les prêtres sont aussi appelés anciens. Être ancien dans une église, cela est devenu une fonction. C'est dommage, car toute l'église devrait se composer d'anciens. Je parle de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres sont l'Église. L'Église entière est composée de prêtres et d'anciens. Et quand est-on ancien? En néerlandais, ce mot vient d'un verbe qui signifie « nourrir ». Donc, un ancien est quelqu'un qui nourrit. Et cela est valable tant pour les hommes que pour les femmes. Tant pour les frères que pour les sœurs. Être ancien n'est pas une fonction, mais une occupation. Bien sûr, il faut d'abord être nourri soi-même, pour pouvoir ensuite nourrir et éduquer les autres. Il faut d'abord être éduqué. Ensuite, exercer cette occupation dans l'Église. Et encore plus tard, au dehors. De cette façon, nous nourrirons la création de Dieu. Nous lui donnerons de l'eau vive et du pain du ciel. Ces choses sont indispensables pour vivre. Mais certains ne s'en contentent pas. Ils veulent quelque chose de fort, quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'attirant. Pourtant, quand on a vraiment soif, on soupire après de l'eau pure, et c'est tellement bon. Et le pain doit nous suffire aussi. Pourquoi devrait-il être accompagné de toutes sortes d'autres nourritures? Non, nous n'avons pas besoin d'en faire trop. Nos cultes n'ont pas besoin de maquillage. Il y eut un temps où on faisait des messes rock à l'Église catholique. Mais on n'y allait pas pour le message, on y allait pour la musique. Jésus n'avait pas besoin de cela. Croyons simplement dans la force de l'eau et celle du pain. Être ancien ne veut pas nécessairement dire être âgé. Certaines personnes âgées disent des niaiseries. Moi, je suis septuagénaire, mais je me sens toujours comme un gamin. C'est ainsi que je me considère. Donc, l'âge n'a rien à voir, mais plus on est sage, plus on sera un bon ancien. Il s'agit d'être sage et de grandir dans cette sagesse, afin de devenir un ancien capable de nourrir. En tant que prêtre, on est debout entre Dieu et le monde, et on fait des actes au nom de Jésus. Car si on est uniquement dirigé vers l'Église, on sera introverti. On aura perdu de vue le but. Et on devient une secte ainsi, une sorte de consanguinité spirituelle. Ne perdons pas le monde de vue. Jésus nous a envoyés dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, a dit Jésus. À nous d'aller dans le monde et de lui distribuer la nourriture. Ne soyons pas trop dirigés vers l'adoration uniquement. Recherchons ceux qui sont dignes de l'Évangile. Ce sont d'abord les brebis perdues d'Israël, les chrétiens perdus, ceux qui se sont laissés perdre par la tentation ou par la violence. Allons les rechercher. C'est alors que la miséricorde travaille. Il ne faut pas intercéder pour le monde, car Jésus disait « Je ne prie pas pour le monde, mais pour mes disciples, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation et qu'ils gardent la foi, afin qu'ils continuent à croire dans la parole que je suis, afin qu'ils restent debout. » Jésus prie cela pour nous. Jésus ne prie pas pour le monde, car cela n'a pas de sens. Certains croient que Marie intercède pour nous, mais c'est faux. Nous ne devons même pas demander à Jésus d'intercéder pour nous, car Jésus lui-même disait « Le Père lui-même vous aime ». Voyez Jean, chapitre 16. Verset 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je vous ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Nous pouvons nous adresser directement au Père. On dit que l'Esprit Saint intercède pour nous. Comment devons-nous nous représenter la chose? L'Esprit Saint habite en nous, et de cette façon, nous sommes soutenus par Dieu. Et qu'arrive-t-il alors? Alors, la parole convainc. Allons croire dans la force des paroles que nous prononçons. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 3, il est écrit « Ce Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. » Ainsi, nous aussi, nous pouvons croire dans la puissance des paroles que nous prononçons au nom du Père et du Fils. Jésus a prié afin que nous gardions ce que nous avons reçu, que nous le tenions fermement. C'est l'évangéliste Jean qui parle le plus souvent du monde. Ce mot « monde » revient 60 fois dans son évangile. Et Jean s'appelle lui-même « ancien » dans une de ses lettres. Il a donc pensé que le monde devait être nourri. Jésus disait « Je suis venu dans le monde pour » et aussi « J'ai été envoyé dans le monde pour » Une autre fois, « Je suis dans le monde comme une lumière » et aussi « Je suis venu pour garder et aider ceux que le Père m'a donnés. » Notre travail, c'est de faire comme Jésus. Bien sûr, cela ne nous rapportera pas toujours de la reconnaissance, vraiment pas. Jésus nous a prévenus. Il a dit « Ils vous haïront, car ils m'ont haï avant vous. » À un autre moment, il dit « Gardez-vous des hommes. » Et encore « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Les loups sont capables de nous déchirer. Ils ont tué Jésus et ils ont tué des apôtres. Et pensez aux persécutions. Nous sommes vulnérables. Quand je regarde les moineaux dans mon jardin, je les vois picorer. Et puis, entre chaque bouchée, ils regardent autour d'eux. Ils sont toujours sur leur garde. Comme c'est intelligent. Nous pouvons apprendre beaucoup des moineaux. Être prêtre, c'est notre travail. Raconter l'Évangile à tous. Il ne faut pas traîner les gens vers notre Église, mais il faut leur apporter l'Évangile. C'est à eux de décider s'ils veulent se joindre à une Église. Tous les lieux sont bons pour apporter l'Évangile. Lorsque Jésus délivra le démoniaque, celui-ci voulait accompagner Jésus. Mais Jésus lui disait « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Jésus lui refusait-il de l'aider pastoralement? Non. Mais en restant parmi les siens, le démoniaque guéri pouvait être un vivant témoignage pour tous ceux qu'il avait connus avant. Et quel témoignage! Jésus savait qu'il pouvait compter sur lui. Parfois, lâcher quelqu'un est plus difficile que le retenir. N'essayons pas d'entraîner les gens vers notre propre assemblée, mais donnons-leur l'Évangile. Ayons le regard porté vers l'extérieur. Soyons occupés à faire changer le monde à partir du ciel, à partir de notre Dieu. Notre Évangile vient du haut vers le bas, et il attire les hommes du bas vers le haut. Quel évangile merveilleux, n'est-ce pas ? Ayons des oreilles ointes, des yeux oints, des mains et des pieds oints, et apprenons à écouter, à regarder, à agir et marcher dans le Seigneur. C'est ainsi que nous serons des prêtres. Je pense qu'ainsi la miséricorde de Dieu prend forme en nous. Car comment Dieu montre-t-il qu'il est bon? Mais il le fait à travers ses enfants. Et ses enfants, ce sont ceux qui sont nés de lui et qui connaissent ses pensées. On peut dire aussi de nous que nous sommes des rois. D'ailleurs, le mot « roi » vient d'un mot qui signifie « enfant ». Si quelqu'un demande « Dieu, qui es-tu ?» Dieu lui dira « Regarde mes enfants, demande-leur. » Si quelqu'un demande « Où est Dieu ?» Oserons-nous répondre « Ici ?» Alors c'est bien. C'est que la miséricorde de Dieu a pris place en nous. La miséricorde est devenue chair. Et c'est de cette façon que Dieu se manifestera. Sommes-nous miséricordieux aussi envers nous-mêmes? Si Jésus dit à quelqu'un « Suis-moi », cela comporte aussi « Comprends mes pensées et suis-moi dans mes actes, dans mes paroles et mon écoute. » Tu as assez dansé, assez chanté. Va faire quelque chose. Va délivrer quelqu'un de ses péchés. Va rétablir les jardins intérieurs. Remets dans la lumière ce qui était sous la poussière. Suis-moi dans mes actions et sois un prêtre qui exécute les pensées de Dieu sur le monde. Ainsi, tu seras un acteur et pas seulement un auditeur. S'il te plaît, suis-moi. Amen. Prions. Père, apprends-nous, apprends-moi à remplir ma mission. Par ton esprit, apprends-nous à devenir des prêtres dans ce monde. Amen.